1985, deuxième partie. On avance donc petit à petit toujours dans ces années 80. Cette seconde partie d'année va encore être riche en cinéma et en nouveautés jeunesse, un peu moins en séries ou en émissions. Avant de faire ce fameux retour dans le passé, un petit générique. Et comme d'habitude, quelques moments historiques dans cette année qui ne fut pas vraiment la plus joyeuse des années 80. Donc en juillet, le 10 juillet, le navire Rainbow Warrior de l'organisation écologiste Greenpeace est coulé par les services secrets français dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le 19 juillet, une gigantesque coulée de boue envahit le bourg italien de Tesero, dans les Dolomites. Elle va faire 350 victimes. Le 12 août, un Boeing 747 japonais s'écrase sur le mont Ozutaka. On ne compte que 7 rescapés sur 524 passagers. Cet accident entraîne une révision de tous les avions de ce type volant dans le monde. Le 19 septembre, tremblement de terre au Mexique. L'énergie libérée par le séisme fut 1000 fois plus puissante qu'une bombe atomique. Les secouristes purent sauver 4000 personnes, dont un nouveau-né de 4 jours, mais le bilan est néanmoins de 10 000 morts, 30 000 blessés et 50 000 sans-abri. Le 27 septembre, on a le braquage des supermarchés Deleuze, Doverays et de Braine-l'Alleud, faisant plusieurs morts et blessés attribués aux tueurs du Brabant. Le 10 octobre, l'acteur et cinéaste américain Orson Welles meurt à Hollywood, terrassé par une crise cardiaque. Le même jour, l'acteur américain Yul Brynner décède, lui, à New York. Le 9 novembre, de nouveau, braquage du supermarché Deleuze d'Alost, aussi attribué aux tueurs du Brabant, qui fera 8 morts. Et alors le 13 novembre, éruption volcanique en Colombie, près d'Armeno, une gigantesque coulée de boue provoquée par la fonte des glaciers et des neiges éternelles entraîne de 20 000 à 25 000 morts et disparus. L'administration colombienne avait été prévenue par un rapport scientifique précis de la probabilité à 67% d'une éruption du volcan. Et je dois ici parler de Omaira Sanchez. C'est une fille de 13 ans qui était donc née 2 mois avant moi. Emprisonnée pendant 3 jours et 3 nuits dans l'eau, entre des blocs de béton et autres débris, elle attira l'attention des médias ainsi que celle des travailleurs volontaires. Des vidéos d'Omaira Sanchez discutant avec les travailleurs, souriant et faisant des gestes aux caméras vidéo vont faire le tour des médias. En fait, on va vivre sa mort en direct. Son courage et sa dignité vont toucher de nombreux travailleurs humanitaires. Ils se réuniront autour de l'enfant afin d'être à ses côtés et prier avec elle jusqu'à la fin. Après 60 heures d'agonie, elle décède. Sa mort a mis en lumière l'incapacité des autorités colombiennes à répondre promptement à la menace du volcan et également la lutte des secouristes pour libérer les victimes coincées dans les décombres. Ils auraient pu être sauvés plus rapidement sans le manque de réactivité du gouvernement. Et après avoir vécu cette mort en direct, je pense que je me souviendrai toute ma vie de cet événement. Elle avait quasi le même âge que moi. Bref, le 20 novembre, la société informatique Microsoft commercialise son premier logiciel d'exploitation graphique pour ordinateur personnel qu'elle appellera Windows. Le 24 novembre, des commandos égyptiens donnent l'assaut à Malte à un Boeing détourné par des pirates. 57 personnes sont tuées, dont 4 des saints pirates. Ces derniers avaient auparavant tué déjà 3 otages. Le 1er décembre, Coluche ouvre le premier restaurant du cœur, sous une tente dans le 19e arrondissement de Paris. Et le 16 décembre, on arrête à Namur Pierre Carrette, Didier Chevollet, Bertrand Sassois et Pascal Van de Heerde, qui sont membres des cellules communistes combattantes, dont nous avions parlé les années précédentes suite à leurs attentats. Voilà pour les points historiques. Alors au niveau du cinéma, que trouvons-nous ? Eh bien plein de belles choses. En juillet 85, un film réalisé par John Carpenter avec Jeff Bridges et Karen Allen. C'est l'histoire d'un extraterrestre qui est poursuivi par l'armée américaine. Il se réfugie chez une jeune veuve et prend l'apparence de son défunt mari. La jeune femme va l'héberger et l'accompagner dans sa fuite. Le film s'appelle Starman.
In 1977, Voyager 2 was launched into space to the outermost regions of the universe. It carried an invitation in all languages for alien life forms to visit our planet. Someone, somewhere, listened and accepted our invitation. Get ready. Someone is coming. Someone like no one she has ever known before.
Can you clone a living organism from the hair of a dead man?
We're hypothesizing a technology that's probably 100,000 years ahead of it. He has powers we cannot imagine, and the face and touch of the man she loved.
I send greetings.
Think of what we could learn.
You don't understand. There isn't much time, please. He doesn't want to hurt anybody. Can't you just leave him alone?
What the hell ever happened to good manners? We invited him here.
So far to come. So much to do. So little time to fall in love. Look up. Company's coming. John Carpenter's Starman.
Ensuite, le 28 août, on a la sortie de Legend. C'est un film réalisé par Ridley Scott avec Tom Cruise et Tim Curry. L'histoire parle de Lily, jeune et jolie princesse, convoitée à la fois par Jack, jeune homme proche de la nature, et par Darkness, véritable incarnation du mal, qui ne rêve que de plonger le monde dans une nuit éternelle, ceci en tuant les deux licornes protectrices. Avec l'aide du lutin Gump et de ses acolytes Screwball et Tom Brooke, Jack va se lancer dans une quête désespérée pour mettre fin aux agissements du démon et empêcher la transformation de Lily en créature perverse. C'est un film qui va mettre en avant le fameux Tom Cruise. En nous, une histoire présente un jeune homme qui veut devenir un maître des arts martiaux. Il va faire équipe avec une chanteuse excentrique pour élucider un mystère. Un groupe de criminels rend l'enquête difficile, en plus de mettre en danger la vie du couple. J'étais allé voir ce film au cinéma et ce qui m'avait surtout marqué, c'était la bande originale. En effet, le film était un film Motown et pour l'époque, on avait de chouettes musiques pop et disco. Ce film s'appelait Le Dernier Dragon.
A martial arts champion in search of the glow.
Master, I need more time.
I am no longer your master.
A rock and roll star on the rise.
I know what it's like to lose precious things.
A madman.
Shogun of Harlem.
A maniac.
You're going to put my video on your show, aren't you?
The answer is no.
And the glamour, the power, and the sound of Motown.
I don't want you to kill anybody.
Are you out of your mind?
The Leroy Green I'm looking for. The little punk thinks he's a kung fu master.
I am no master.
You sure look like a master to me.
This is Berry Gordy's The Last Dragon. It's about the power of the glow. Timok, Vanity. Berry Gordy's The Last Dragon, directed by Michael Schultz, a Motown Productions picture from TriStar.
Police sort le 4 septembre. C'est un film réalisé par Maurice Pialat avec Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Sandrine Bonner et Richard Anconina. L'histoire dit qu'acculé par l'inspecteur Mangin, Claude a balancé Simon et ses frères des grossistes de Belleville qui écoulaient de l'héroïne à Marseille. Mangin a embarqué Simon et Noria, sa compagne. Au commissariat, les interrogatoires s'enchaînent et la tension monte. Mangin frappe un voyou et, exaspéré par les dénégations de Noria, la malmène aussi. Simon, pendant ce temps-là, lui, attend son procès derrière les barreaux. Le 11 septembre, on a l'histoire de 5 étudiants. Ils n'ont rien en commun à part leur présence en colle un samedi après-midi. Méfiants les uns envers les autres, il y a un génie, une névrosée, un sportif, un rebelle et une fille à papa. Ils vont apprendre à se connaître et à passer outre leurs préjugés. Le film, très intéressant, s'appelait Breakfast Club.
Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions ?
Si. Est-ce que l'inspecteur Colombo est au courant que vous avez fait une razzia dans sa garde-robe ?
Un surdoué, une fille à papa, un athlète, un révolté et une détraquée.
J'arrive pas à croire que ce genre de choses m'arrive à moi.
Avant la tombée de la nuit, ils feront tout ce qu'il ne faut pas faire.
Les filles n'arrivent jamais à avaler la fumée. C'est comme ça, c'est tout.
Ils livreront tous leurs secrets.
D'abord, je suis nymphomane.
Et tes parents le savent ?
Ils prendront tous les risques.
Ça fait du bien de commettre de mauvaises actions. Hein ?
Et ils seront plus proches les uns des autres qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer.
Pourquoi tu as fait ça ?
Tu l'aurais jamais fait.
Oh. Breakfast Club. Un club qui n'exista qu'un jour
Je ne veux plus être seule. Jamais.
Maintenant, t'es plus obligée.
Mais qui devait changer toute leur vie.
Je vous considère comme mes amis. J'espère que je me trompe pas.
Universal présente Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald et Ali Sheedy dans un film de John Hughes.
Pourquoi t'es si gentille avec moi? Parce que tu me laisses faire.
Breakfast Club.
Le 18 septembre, on a la sortie d'un film français, réalisé par Corinne Serreau, avec Michel Bougenat, Roland Giraud et André Dussolier. Ça raconte l'histoire de Jacques, Pierre et Michel, célibataires, qui vivent ensemble dans un très grand appartement au centre de Paris. Un soir, lors d'une soirée organisée dans leur appartement, Jacques, le steward, accepte de servir de transitaire à un paquet qu'un ami va lui livrer le lendemain. Ayant à peine eu le temps de prévenir ses amis, il part en Extrême-Orient pour plusieurs semaines. Quand arrive le paquet, ce paquet est en fait un bébé. L'histoire qui suivra sera rocambolesque. Le film, vous l'avez sans doute reconnu, c'est Trois hommes et un couffin.
Quelqu'un dépose un paquet dimanche et vient le rendre jeudi. Pas de problème.
Ah, j'ai oublié de lui expliquer pour les bouillies.
Voilà trois célibataires qui n'ont aucun souci au monde.
Maintenant, à de la bonne vie, les grasses matinées.
Mais tout cela va bientôt changer.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Et pèse combien?
Ah oui, pèse combien? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh ben, c'est un bébé.
Elle s'appelle Marie et à ta place, je lui cracherai pas trop dessus parce que c'est ta fille.
Hein? Oh la vache, elle a chié.
Mais la lâche pas!
Bon, mais t'es prends le coton toi-même si tu veux pas que je la lâche.
Madame Rapon, de l'agence Seconde Maman.
Madame Paron, Madame Rompas, Madame Paron, Rapon, merde.
Rapon, Madame Rapon.
Madame Rapon, oui, c'est ce que je disais.
On vient chercher le paquet.
Ah oui, ah bah dis donc, vous parlez d'un paquet? Mais c'est celui-là de paquet qui venait chercher les mecs, pas le mouflet, enfoiré!
Vous avez l'intention de rouler avec un couffin sur votre moto?
D'une pipe, donnant d'une pipe!
Et l'enfant, il est à qui?
Merde!
Cet après-midi, entre 3 et 5 au parc Monceau, je trouvais le moyen de lâcher le paquet.
Bonjour, je suis Sylvia, la mère de Marie.
Mais quel connard, mais quel connard!
Je suis enceinte.
On est dans une panade noire.
Quelquefois, les plus grands problèmes arrivent dans les plus petits paquets. Roland Giraud.
Mais c'est quoi?
André Dussolier. Et Michel Bougenat.
Un copain.
Dans Trois hommes et un couffin.
Rambo, le numéro 2, sort en octobre. C'est l'histoire donc d'un ex-combattant du Vietnam, John Rambo, qui a purgé une peine de 5 années de prison et son ancien colonel lui offre une chance de se racheter. Il va devoir retourner au Vietnam et repérer les camps détenant des prisonniers américains depuis la fin de la guerre. Rambo va prendre sa tâche très au sérieux et ne tardera pas à découvrir quelques compatriotes gémissant sous le joug de tortionnaires communistes. Le 30 octobre 85, sortie d'un film de Robert Zemeckis avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd et Léa Thompson. L'histoire que vous connaissez sans doute tous, ou presque tous, c'est celle du jeune Marty McFly qui mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer. Elle est seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Il est ami avec un excentrique professeur, le docteur Emmett Brown. Il l'accompagne tester sa nouvelle expérience, le voyage dans le temps, via une DeLorean modifiée. La démonstration va tourner au fiasco, des trafiquants d'armes vont débarquer et assassiner le scientifique. Ce film s'appelle bien sûr Back to the Future.
Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale.
Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça.
Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean?
Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé.
Ça marche!
C'est une soucoupe volante venue de l'espace!
Il serait beau!
Maintenant, il est bloqué dans le passé.
Je dois rêver, c'est pas possible.
Il fait la connaissance de son futur père.
Mais c'est un voyeur!
Et il plaît beaucoup à sa mère.
Il est absolument censé
dormir dans ma chambre.
Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur.
Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre.
Bon sang, Doc, je suis même pas né.
Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur.
On a aussi le film Cocoon, le 27 novembre. C'est un film de Ron Howard avec Steve Guttenberg et Tani Welsh. L'histoire parle d'un groupe de retraités quelque part sur la côte de Floride qui sympathise avec quatre extraterrestres qui remontent à la surface de curieux cocons qu'ils déposent dans une piscine. Piscine dans laquelle les retraités vont se baigner et miraculeusement, après leur baignade, ils vont se trouver merveilleusement jeunes. Le 4 décembre, un film de Richard Donner avec Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, qui est présenté par Steven Spielberg. Il se passe à Astoria, une modeste et paisible cité portuaire de la côte ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes habitants, car il ne se passe jamais rien ici, soupire l'un d'eux un jour mélancolique. Mickey Walsh, 13 ans, venait de prononcer une de ces phrases fatidiques qui annoncent parfois les aventures les plus étranges, les plus folles et les plus amusantes. Pour ceux qui connaissent les films cultes, ils ont sans doute reconnu le départ de Goonies.
Steven Spielberg présente Les Goonies, un film de Richard Donner.
Et voilà, c'est cassé, Choum. Hé, Mika, trouve une carte. Oh la vache, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire? Oh non, je ne veux plus être mêlé aux aventures à la con des Goonies.
Je vous présente Mickey.
Il faut que j'aille au pipi room.
Brandt. Andy.
Ah la honte, ah la honte.
Allez, grand, sors-lui ta langue.
C'est dégoûtant, je ne veux même pas regarder.
House.
Moi, je te tiens. Allez, fous-moi le camp maintenant, ta vie, ma peinture, idiot.
Tu m'as fait rater ma blague.
Stephanie. Data.
Les Goonies, Flash. Regardez, c'est pas génial.
Et Chunk.
C'est fermé.
Ils se sont surnommés les Goonies. Ils ont découvert une légende. Mais ils ne sont pas seuls.
Chou, j'espère que c'était ton estomac.
Non. C'est la chose.
On dirait King Kong.
Découvrez ce qu'ils ont découvert.
C'était tout plein de rubis et d'émeraudes et diamants.
La carte perdue.
Oh super, on a trouvé le tunnel.
Les grottes secrètes.
Hé, hey, Mickey, si tu arrives à m'entendre, sauve-toi. Sauve-toi, ils sont à ta poursuite.
Alerte à la secousse.
Les indices cachés.
Mickey.
Les pièges perfides.
Allô, shérif, je suis dans la salle de l'ancien phare. Je veux vous signaler un meurtre.
Comme votre dernière blague avec toutes ces petites créatures qui se multipliaient quand on leur jetait de l'eau dessus, c'est ça?
Prêtez serment.
Ils sont là. Ah, oh mon Dieu.
Moi, quelqu'un qui vient.
Venez vivre cette aventure. Steven Spielberg présente Les Goonies.
Wow.
Un film de Richard Donner.
Voilà pour le cinéma. Passons maintenant à la télévision. D'abord, la RTBF. Lollipop est encore diffusé pendant les vacances, mais c'est donc la fin. Vient donc ensuite une émission pour les enfants diffusée en fin d'après-midi vers 17h, ainsi que le samedi matin et le dimanche après-midi de septembre 85 à juin 94. Elle va succéder à Lollipop et s'appellera Nooba Nooba.
D'animaux aussi.
Nooba, 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 Nooba.
On va découvrir également un dessin animé qui met en scène deux enfants, nommés Kuk et Flupk. Ceci dans leur vie quotidienne dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Leurs aventures sont ponctuées de nombreux gags en raison de leur maladresse. Citons quelques séries dont on a déjà parlé, Les rues de San Francisco, L'îlot 30 Cercueil, Fame, Ma cousine Rachel ou encore L'agence Tourisque. Alors une nouveauté en avant-première. L'histoire parle de James Sonny Crockett et de Ricardo Tubbs. Ce sont deux inspecteurs du département du crime organisé. Ils agissent le plus souvent en civil et sous couverture, utilisant de fausses identités dans le cadre de leurs enquêtes. Crockett est un ancien footballeur américain ayant mis fin à sa carrière à la suite d'une blessure. Il est aussi vétéran de la guerre du Vietnam. Tubbs, quant à lui, a quitté New York pour Miami à la recherche de l'assassin de son frère. Cette série, vous vous en souvenez sans doute, s'appelait Miami Vice. Des émissions, en dehors des émissions qui sont devenues des classiques dont je ne parle plus, on découvre Coup de film, qui présente les sorties de la semaine avec Terry Faucan à sa présentation. Débute également une émission culturelle et musicale qui s'appelait Cargo de nuit. Une autre émission musicale décalée avec Ray Cox à la présentation qui se lance en cette rentrée. Ça s'appelle Roxbox. Ray Cox y reçoit des stars de la musique de toutes sortes. Son travail sera plutôt bien reconnu puisqu'il pourra partir après sur MTV. Vient également une émission créée par Jean Libon et Marco Lamench. L'objectif des créateurs était de réaliser des documentaires d'un genre nouveau dans lesquels les commentateurs s'effaceraient pour laisser parler les protagonistes. L'émission aborde essentiellement des passages de la vie de tous les jours, des repas de famille, des séances de vaisselle, la vie d'une fermière, etc. Le spectateur peut ainsi se reconnaître dans son intimité quotidienne. Vous l'avez sans doute reconnu, s'appelait Striptease, et son slogan c'était « l'émission qui vous déshabille ».
En silence face à leur ado rebelle. Et puis, il y a celles qui ne se gênent pas pour leur tailler un costard.
La RTBF va également lancer un nouveau jeu familial dans la case du dimanche soir, ceci à la place de Zygomaticorama. Elle confie la présentation de cette émission à Philippe Gueluc, le comédien et animateur préféré des enfants grâce à Lollipop. Il est aidé pour compter les points par un certain Maître Ruban, huissier de justice un peu à côté de ses pompes, campé par le comédien Alain Perpète. Ce comédien se cachait d'ailleurs derrière la marionnette Chandelle dans Plein jeu avec Arlette Vincent. Le jeu, quant à lui, met en présence trois familles avec trois générations réunies qui doivent répondre à des questions ou réussir des épreuves. On peut gagner un frigo, une voiture, etc. Le jeu s'appelait L'esprit de famille.
Et le tonton, la tata, le toutou sont partis le chercher à vélo. Ça avait pas vu la mémé, elle a piqué la moto. J'ai vu papa dans l'auto de maman, y'a Bibi, l'a vu prendre un taxi. On peut dire qu'on a l'esprit de famille.
Passons maintenant à RTL. Au niveau de RTL, l'émission hebdomadaire pour la jeunesse, La Bande à Gros Beaux, présentée lors de sa création par Claude Rappé et Anouchka Sikorski, ne l'est plus et passe dans les mains de Anne Lauric et Franck Olivier, mais toujours avec la complicité du robot Gros Beaux, et elle est maintenant diffusée tous les jours à midi, d'où le changement de son générique.
Je suis Gros Beaux sympathique, l'ami des enfants. Dans mon électronique, pas de perdant. J'aide toujours les plus faibles, je soutiens les plus forts. Gros Beaux n'a qu'une règle, personne n'a jamais tort.
La bande à Gros Beaux, tous les jours à midi, on est entre amis et vive la vie. On est là pour faire la fête, on est là pour s'amuser. Nous avons l'arme secrète qui fait naître l'amitié. Un robot très sympathique qui est l'ami des enfants. Il parle et c'est fantastique, il nous dit ses sentiments.
Dans les nouveautés, deux dessins animés vont sortir du lot. Dans la bande à Gros Beaux, on trouve les aventures d'un jeune robot élevé dans une famille normale qui fait l'interface entre les cultures des hommes et celles des machines. C'est Astro le petit robot.
Dans le secret d'un laboratoire de Futurapolis, le professeur Battus a créé un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un enfant robot. Qui aurait pu imaginer que cette petite créature fragile connaîtrait une extraordinaire destinée? Et pourtant, que d'aventures pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot.
Ce héros du futur, qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là, quand il faut. C'est Astro, le petit robot. Ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraîner. Toujours là, quand il faut. C'est Astro, le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro, le petit robot.
Dans Chocolat Chaud, on découvre le fils d'un biologiste qui, pour exterminer des espèces mi-plantes mi-animales gérées par la lumière noire, doit retrouver son père. Aidé de ses amis, les conquérants de la lumière, Flora, Oun l'écuyer, Gideon le magicien, Herc le navigateur ou Brock le poisson volant, il combat les monstres plantes et leur chef, Discor. C'est Jace et les conquérants de la lumière.
Va, Jace, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Jace, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jace, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs.
Une force flamme qui brûle tout au fond de toi.
Au niveau des séries, comme depuis quelque temps, on a peu de nouveautés. On retrouve donc ainsi Columbo, Le Souffle de la Guerre, Riley, Dallas, V, Sheriff Fais-moi Peur, Papa Poule, Chips, La Lanterne Magique ou encore L'Appel de la Gloire. On peut néanmoins citer 5 nouveautés qui apparaissent. Alors je n'ai pas trouvé de trace audio de la première, qui s'appelait Lily Petit à Petit, où une jeune femme, fille d'épicier, compte bien réussir sa vie. Elle choisit de démarrer une carrière dans la coiffure, et pourquoi pas dans un grand salon de la capitale parisienne. Aux joies professionnelles vont répondre les mésaventures sentimentales et les tracas du quotidien. La deuxième parle de la vallée de Tosteani, près de San Francisco. Guangela Channing dirige d'une main de fer les vignobles de Falcon Crest. À la mort de son frère, elle est contrainte de partager le domaine avec son neveu, Chase Gioberti. Une lutte acharnée pour le pouvoir s'engagera alors entre les deux. La série porte le nom des vignobles, c'est Falcon Crest. Troisième raconte les aventures de Louis Chicone, journaliste de presse écrite qui résout toutes sortes de crimes grâce à des visions du passé qu'il ne peut contrôler. Cette série s'appelait Un journaliste un peu trop voyant. Autre série qui aborde aussi une saga sur une riche famille, c'est la riche famille de Lorenzi, des industriels italiens du bois déchirés après la mort du patriarche. La série s'appelait La Vallée des Peupliers. Enfin, débute une série qui regroupe deux héros de séries cultes. Une des drôles de dames, elle s'appelle Kate Jackson. Ensuite, le héros de Frank Buck, chasseur de fauves, il s'appelle Bruce Boxleitner. On rencontre ainsi les aventures de Lee Stetson, dont le nom de code est Scarecrow, qui est un agent de haut niveau de l'agence, un service de renseignement comparable à la CIA. Il mêle par hasard à sa mission une femme au foyer divorcée, Amanda King. Amanda est trop curieuse pour laisser Lee agir seule. Et à chaque épisode, elle devient un peu plus impliquée auprès de l'agence et de Lee. Elle commence seulement par aider et elle finira vers la fin de la série comme un véritable agent. Cette série s'appelait « Les deux font la paire ». We'll be right back. Alors, au niveau d'Antenne 2, commençons, comme d'habitude, avec Récréa 2. On a bien sûr droit à un nouveau générique en cette rentrée. Sa principale caractéristique est maintenant d'être dessinée par Cabu, ce qui ne se voit pas trop en audio. Mais qu'importe, le voici. Alors on retrouve toujours bien sûr les mystérieux cités d'or au programme. Il y a aussi une grande nouveauté au niveau science-fiction japonaise de la rentrée qui commence ainsi. Lors d'une séance de rêve artificielle, un homme nommé Johnson retrouve la mémoire. Il découvre qu'il est en réalité l'aventurier mythique et supposé mort dénommé Cobra. Il s'aperçoit ensuite que son bras gauche dissimule une arme redoutable, le rayon Delta. Après avoir retrouvé son identité, Cobra décide qu'il est temps de reprendre sa vie de flibustier de l'espace. Aux côtés d'Armanoïde, sa fidèle coéquipière, androïde à la personnalité féminine, il parcourt l'espace à bord de son vaisseau spatial futuriste, l'un des plus rapides de la galaxie. Ceci en quête d'aventure, de recherche et de conquête féminine, son activité favorite. Vous avez bien sûr tous reconnu Cobra.
Venu du nul par ses cobras. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Rien qu'à son nom, voit leur sang qui se glace, se glace. Mais quand il y a danger, c'est Cobra qui vient pour nous aider, Cobra.
Également à la rentrée, on apprend les problèmes du Shagma, soleil artificiel indispensable à la vie des gens du dessous, dans la cité d'Arcadia. Guidés par Shag-Shag, antique vaisseau conscient et doté de pouvoirs magiques, les enfants d'Arcadia apprennent que leur peuple vivait au-dessus, jusqu'au grand cataclysme qui a précipité leur île sous la surface de la Terre. Ils créent alors Arcana, une créature ressemblant à une humaine, et l'envoient avec Shag-Shag vers la surface pour chercher de l'aide. Ce sont les mots nous engloutis.
Depuis le grand cataclysme, les Arcadiens vivaient blottis au centre de la Terre. Ils avaient tout oublié de leur passé, ainsi l'avaient voulu leurs ancêtres. Jusqu'au jour où leur soleil, le Shagma, tomba malade. Alors les enfants d'Arcadia osèrent entrer dans le musée interdit. Ils y retrouvèrent quelques traces du passé, mais aucun plan du Shagma. Alors les enfants créèrent, puis envoyèrent vers la surface de la Terre, leur messagère Arcana.
Bob, Rebecca. Oh, vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. Vers Arcadia, vers les mondes engloutis. Pour nous sauver la vie. Suis les mondes engloutis. Thank you.
Un peu plus tard arrive une série qui met en scène les aventures d'un bébé phoque, d'un jeune garçon passionné par la nature et d'une petite fille inuit. Ils vont combattre les chasseurs de phoques en Arctique. La série s'appelait Bibi Phoque. On retrouve également l'Empire des Cinq dont nous avons déjà parlé précédemment sur une autre chaîne. Ensuite, une histoire qui se passe dans les années 20, quand Clémentine, 10 ans, se retrouve en fauteuil roulant après un accident d'avion provoqué par Malmotte, un démon de flamme. Elle pourra retrouver sa mobilité pour lutter contre lui uniquement dans ses rêves. Le dessin animé s'appelle Clémentine. Et enfin, on découvre un dessin animé américain qui retrace les aventures de Pato et Dolly qui essayent de retrouver leur maître Tommy. Il s'appelle les Poupies.
C'est un petit chien du nom de Pato qui galope sans cesse par monts et par vaux avec sa copine Dolly. Ils cherchent leur ami Tommy. Il est pas bien haut, mais c'est un héros. Il est très malin. Même s'il n'est pas gros, et rien ne pourra jamais l'arrêter. L'entêter. Les poupées ont bien des ennuis, et tous les dangers qu'ils vont rencontrer, ils devront les affronter. Pour trouver Tommy, les poupées n'aiment pas les bandits, pas tous se défendent contre les méchants. Ils ont perdu leur collier, pas leur nez.
Au niveau des feuilletons, citons des classiques et des continuités comme Un bonheur incertain, Rancune tenace, Canon, Ivan Noé, Lou Grant, Magnum, Maigret, Remington Steele, des agents très spéciaux ou encore Madame le Juge. Ressortant également des 70s, on retrouve un feuilleton qui relate l'histoire d'un commando de légionnaires envoyé dans l'Afrique contemporaine pour combattre un groupe de mercenaires voulant détruire un barrage. Ce sont les 12 légionnaires.
La 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 la.
Deux nouveautés également à noter, nous avons déjà parlé de la première qui était la série Les Deux font la paire. La seconde compte les aventures d'une femme de caractère d'une cinquantaine d'années, mariée pour la troisième fois avec Georges Boissier, directeur du magasin d'électroménager Boissier Maxi Discount, de sa fille et de son petit-fils. Le décor principal figure l'intérieur d'une maison cossue du Vésinet. On retrouve au casting Rosie Vart, Jean-Marc Thibault et Martville Alanga. C'est Maggie.
Elle voit souvent rouge, avec ses sa bouche, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme, quand son cœur s'enflamme, elle joue sous sa gamme. Au masque, elle fait sa météo, chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit.
Au niveau des émissions, il y a toujours les carnets de l'aventure. Platine 45 est renommée, s'appelle maintenant Super Platine. C'est toujours Jackie à la présentation et bien sûr un nouveau générique. Également un nouveau jeu présenté par Jean-Pierre Foucault. Il présente déjà l'Académie des Neufs à l'époque le matin, et maintenant il va le faire aussi l'après-midi avec le jeu La Trappe. Des questions sont posées à un candidat, assisté par deux personnalités, qui lui permettent de remporter des kilomètres voyage, aussi appelé Killer Rêve. Le participant est présent durant plusieurs émissions successives pour tenter d'atteindre la destination choisie. Au final, le vainqueur peut remporter un voyage avec la personne de son choix, selon la distance obtenue.
Bonsoir, les îles Fidji, destination de la quatrième semaine.
Enfin, un nouvel animateur prend les rênes de l'après-midi, sauf le mercredi bien évidemment où il est récré à deux. Du lundi au vendredi, il propose un cocktail de bonne humeur entre invités, variétés et chroniques. Avec Guylaine Ottenheimer, l'animateur reçoit 6 invités tous les jours pour parler spectacle, cinéma, mode et art de vivre. Cet animateur était Christophe de Chavannes. L'émission, c'était C'est encore mieux l'après-midi. Alors passons du côté de TF1. Au niveau jeunesse, on a toujours Vitamine qui propose 3 nouveautés principales. D'abord, le défi des gobos, qui parle des originaires de la planète Gobotron, les gobos, robots transformables en véhicules qui se divisent entre les gardiens, dirigés par Leader, et les renégats, dirigés par Cyclo. Le combat viendra sur Terre où chaque camp aura ses propres partisans.
Gobo, les justiciers de fer. Héros mille formes qui soudain se transforment pour aller.
aller au combat. Chevalier de l'espace, qui jour et nuit font face aux cruels renégats. Go, go, go.
Ensuite, on découvre Booby, qui fait naufrage sur une île et y trouve un œuf. Il décide de prendre soin de l'œuf et un jour éclot un joli dragon rose. Booby le nomme Biniki et ils deviennent inséparables. Ils décident de découvrir l'île ensemble et de la protéger des pollueurs et autres gens mal intentionnés qui veulent la détruire pour y bâtir des parcs d'attractions, des hôtels et d'autres. C'est Biniki le dragon rose.
Ça doit nous amuser et nous propose de la suivre où le monde est beau. Sur une île de paradis, brisant la coquille de son œuf, on voit naître un jour Biniki, le gentil dragon tout neuf. Biniki, le dragon rose, et Booby à Calypso chant.
Enfin, une série qui met en scène une famille de créatures mi-humaines, mi-souris, vivant clandestinement dans les maisons des humains. L'histoire se concentre surtout sur les familles Mini. Ils vivent dans la maison de la famille Legrand. Et Eric le garçon, qui est le seul humain à connaître leur existence, est d'ailleurs ami avec les enfants de la famille Mini. Ce sont donc les Mini-Pousses.
J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les Mini-Pousses?
Petits attrape-moi.
Ah, nous voilà, bonjour.
Oui, les Mini-Pousses.
Chez vous, ça
va. Ah non!
Dans les murs de votre maison.
Bonjour, Eric Legrand.
Bonjour, Lucie Mini.
Vous êtes en. Veux-tu venir ici, Charlie Mini?
Non, pas le temps, grand-pas Mini.
Nous, les Mini-Pousses, qui sommes la beauté. Pour compter le salon, nous éclairons. Derrière un meuble où nous allons.
Rentrez vite, les enfants.
En secret, nous le lui rendons. Nous, les Mini-Pousses, qui sommes la beauté.
Du côté de la semaine, on découvre l'émission Salut les petits loups, qui remplace Le village dans les nuages.
Salut les petits loups!
Dans cette émission, on retrouve déjà les bisounours et Jess et les concurrents de la lumière, nous avons déjà parlé. Il y a aussi Blondine au Pays de l'Arc-en-Ciel, aussi appelée Rainbow Bright, où une originaire du Pays de l'Arc-en-Ciel, Blondine, a décidé d'apporter joie, bonheur et couleur aux habitants de la Terre.
Rainbow Bright, pays de lumière, où les petits lutins vivent comme des rois, Rainbow Bright.
On retrouve également une série qui met en scène les mésaventures d'une petite fille curieuse, Alice, qui suit un jour un lapin blanc dans un terrier et découvre le Pays des Merveilles. Elle y rencontrera des personnages étranges comme la reine de cœur, Dodo, une chenille bleue, un chat mystérieux et bien d'autres. C'est bien évidemment Alice au Pays des Merveilles. Fin d'année, on découvrira une série dans Destination Noël. Elle allait faire une bien belle carrière par la suite. Elle présente les aventures d'une orpheline amusante et débrouillarde, abandonnée par sa mère à l'âge de 7 ans. Elle est alors adoptée par Henry Warnimont, un vieux photographe vivant à Chicago. Cette série, vraiment très chouette dans mes souvenirs, s'appelait Punky Brewster.
you can't be sure of anything anymore.
Au niveau des émissions, on a une nouveauté divisée en trois parties. Première partie s'appelle les refrains à la une. Les candidats devaient reconnaître des chansons interprétées à l'orgue électronique par Charlie Oleg, ceci sous l'arbitrage d'Evelyne Leclerc. Dans la deuxième partie, il y avait un jeu de Simone Garnier avec un voyage pour un couple à gagner. Et dans la troisième partie, c'était un jeu des célibataires animé par Fabienne Hegal. L'émission dont vous avez sans doute tous des souvenirs s'appelait Tournée Manège.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir de vous retrouver pendant une demi-heure, histoire de faire quelques petits tours de manège ensemble. Un manège qui va conduire nos candidats à Malte, peut-être, en ce qui concerne le jeu de Simone, qui va peut-être leur permettre de trouver l'amour avec famille.
On trouvait aussi l'émission de variété Formule 1, ainsi que pendant les vacances, une émission appelée Les vacances de Monsieur Léon et présentée par Léon Zitrone. Alors au niveau feuilleton sur TF1, on retrouve comme partout des tas de rediffusions. La lumière des justes, 2 ans de vacances, chapeau melon et bottes de cuir, guerre et paix, commissaire Moulin, Ardéchois cœur fidèle, au nom de la loi, pour l'amour du risque, Sandokan, ou encore la petite maison dans la prairie, Arnold et Willy, et également l'agence touriste Coulé Banni. Alors on note aussi le début d'un feuilleton brésilien appelé Cœur de Diamant qui va amener tout un ensemble de séries de ce type. Puis également un feuilleton qui raconte les mésaventures au long cours de plusieurs familles californiennes. Elles ont entre elles des liens puissants de haine, d'affection ou de désir de vengeance. La série met spécialement en scène 2 familles opposées l'une à l'autre, à savoir les Capwell et les Lockridge. Cette série, c'est Santa Barbara.
Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais.
Enfin, notons la rediffusion d'une série télévisée de 1981 consacrée au sport. Elle revient à l'avant de la scène grâce à la présence de la Chantal Nobel de Château-Vallon. Elle suit les aventures d'un couple de journalistes sportifs travaillant pour une agence de presse fictive qui, à chaque épisode, couvre un sport différent. Elle s'appelait Salut Champion.
Tous ces gens qui se dépassent. Terrain sur la glace, qui vont jusqu'au bout de l'effort. Toute leur vie c'est le sport. Sport de luxe ou populaire, en équipe en solitaire. Ils s'attaquent à tous les records pour aller plus loin.
En ce qui concerne FR3, on note le retour de la Panthère Rose et l'arrivée de 2 nouveaux dessins animés. Le premier met en scène les aventures des chats Isidore et Riffraff. Isidore est un gros chat orange à rayures dont le maître est le jeune Bruno. Sa principale occupation est d'embêter Brutus, le chien des voisins, ainsi que les commerçants du quartier où il vit. Riffraff, lui, est un chef de bande qui vit dans une décharge où il fait les 400 coups avec sa bande de copains. Ce sont les entrechats.
Isidore le citadin, dans la ville du Cribicois, Riffraff est le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Son maître nom Isidore, Riffraff a la vie dans son corps. Pour qu'il soit, ils font la loi, chassons roi, les chassons là, ça de bonne manière.
Le second parle d'un cambrioleur talentueux et séducteur, maître du déguisement et roi de l'évasion. Il est le petit-fils d'Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur. Malin, jovial et plutôt espiègle, il élabore de nombreux projets de cambriolage avec ses associés. Il affectionne tout particulièrement les gadgets farfelus et les femmes. Il s'appelait Edgar de la cambriole. Des séries sur FR3, citons El Long Moineau, Un journaliste un peu trop voyant dont nous avons parlé plus tôt, Le retour de Bénéil ou La continuité de Dynastie. Alors pour finir sur FR3, signalons que les jeux de 20h sont totalement réinventés dans ce qu'ils s'appellent maintenant les nouveaux jeux de 20h. Et bien sûr, il y a un nouveau générique.
Dernière soirée à Auvers-sur-Oise avec Harold Kay, Sophie Agadinski, Maître Capello, l'équipe A avec son berger allemand et l'équipe B. Et tout de suite, derrière le signe de Fer 3, Jean-Pierre Descombes.
Est à l'honneur ce soir, dernière soirée à Auvers-sur-Oise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs.
Voilà, on a fait ainsi le tour de 85. Bon, on se rend compte néanmoins que le cinéma a pris de plus en plus de place et que les séries cultes sont de moins en moins nombreuses à débarquer. Il nous reste plus ou moins 3 ans à parcourir dans ces années 80 en ce qui me concerne. On va essayer de ressortir les grandes nouveautés pour éviter de tourner en rond en ne citant que des éternelles rediffusions. Je vais analyser le tout d'ici peu et on verra ce qu'on peut faire de bien. En attendant, d'ici là, on se réentend bientôt et comme d'habitude, on se dit le mot de fin de Jean Topard.
Au revoir. À bientôt.